Salut à tous. Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description.
Merci Amélie de Montchalin d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je le disais, vous êtes la ministre des Comptes publics, qu'on appelle aussi ministre du Budget, un poste que moi j'ai toujours vulgarisé comme étant l'un des plus stratégiques dans un gouvernement, avec le ministre des Relations avec le Parlement. Mais le ministre du Budget, vous avez un projet de loi. Et pas n'importe lequel, et un projet de loi par an. C'est le fameux budget, le budget de la France, le budget de l'État, un projet de loi au cours duquel il faut déterminer la quantité d'argent que l'on fait rentrer dans les caisses et la quantité d'argent qu'on va dépenser. Pour faire simple, c'est un budget, ouais, c'est un budget, mais c'est surtout, c'est pas juste un exercice comptable, j'ai besoin que vous le compreniez ça. C'est pas qu'un exercice comptable, c'est un exercice hautement politique, puisque c'est avec cet argent que l'on va déterminer la politique économique et sociale de tout le pays. C'est en fonction de l'argent qu'on va mettre dans les services publics ou pas, c'est en fonction de l'argent qu'on va redistribuer ou pas, c'est en fonction des impôts que l'on va collecter ou pas, que l'on va inciter ou pas l'activité économique. Bref, c'est le véritable cœur du réacteur nucléaire d'une action gouvernementale, quelle qu'elle soit. C'est ça, un budget. Et le budget, depuis quelques années, il est devenu psychodramatique. On a vécu l'année dernière un budget très particulier. On a même vécu le départ d'un Premier ministre et d'un gouvernement tout entier suite à la non-adoption d'un budget et le rejet d'un 49-3 par une motion de censure. Et vous, voilà, vous, Madame de Montchalin, ici sur notre plateau, à la tête de ce budget, budget qui est en train d'être construit pour l'année prochaine et qui est construit dans des conditions très difficiles, puisque vous avez annoncé, le Premier ministre, François Bayrou, a annoncé lors d'une conférence de presse il y a plus d'un mois, 40 milliards d'euros d'argent en moins. Est-ce que vous maintenez ce chiffre? Est-ce qu'on est toujours dans cet étiage budgétaire-là?
Alors bonsoir, merci de votre invitation. Ce qui est déjà particulier, c'est qu'on va faire deux budgets dans l'année, puisque en fait, moi je suis arrivée le 23 décembre, ce n'était pas le meilleur,
Non.
pas vraiment un cadeau de Noël complètement que de se retrouver à vouloir au fond trouver une solution à un pays qui, vous vous souvenez, à l'époque était bloqué. Et donc on a réussi, et d'ailleurs on a un meilleur budget, je pense que les négociations avec notamment le Parti Socialiste a fait qu'on a un meilleur budget, et qui est arrivé très tard, qui est arrivé le 15 février.
15 février.
Et je veux le dire, un budget, vous avez un peu commencé à le dire, je ne sais pas si c'est stratégique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très très utile. Et quand on n'a pas de budget, en fait, ça veut dire qu'on collecte l'impôt comme l'année dernière, et parfois on veut le collecter différemment, parce qu'on veut répartir différemment l'effort. Et puis on a un problème de dépenses parce que du coup, on fait pas de choix. On continue de faire ce qui était fait l'an dernier. Ce que je veux vous dire, c'est que les milliards, personne voit très bien ce qu'est un milliard. Moi-même, je vous assure, je vois pas bien ce qu'est un milliard. Au sens, c'est très très difficile de se le représenter. En revanche, on sait ce que c'est que la dette et on sait que quand nous, on est un ménage et qu'on est surendetté, qu'on a trop de charges d'intérêt, qu'on a trop d'intérêts à payer, on voit qu'on est en surendettement. Et le risque, c'est que la France tombe dans le surendettement. Aujourd'hui, pour que vous ayez une idée, on rembourse, aujourd'hui, on rembourse à ceux qui nous ont prêté de l'argent avant, plus chaque année, que tout ce qu'on paye pour l'éducation nationale.
C'est la charge de la dette.
La charge de la dette.
Ouais.
Et donc, notre objectif, c'est qu'on arrête de faire augmenter la dette. Et pour y arriver, il faut qu'on arrive à, du coup, faire en sorte que l'argent qu'on collecte et l'argent qu'on dépense, il y ait moins d'écart, et donc que le déficit soit réduit. Donc, mon objectif...
Donc, c'est de là que viennent les 40 milliards.
Mon objectif, c'est de dire, cette année, on dit 5,4% de différence... entre ce qu'on, de PIB, donc c'est 160 milliards à peu près de différence entre l'argent qu'on arrive à collecter et l'argent qu'on investit dans la défense, dans la santé, dans l'éducation, dans l'écologie.
Non mais justement,
et
c'est
donc,
ça qui est
l'objectif,
intéressant.
L'objectif, c'est qu'on arrive à réduire cet écart, parce que comme cet écart, ça veut simplement dire qu'on l'a emprunté à des gens, parce qu'on n'a pas trouvé les impôts pour le financer.
Mais vous dites effectivement, c'est vrai que les milliards, quand on jongle avec les milliards comme ça, c'est vrai que ça peut ne pas parler à tout le monde, et c'est juste, par contre, il y a un truc qui parle à tout le monde, c'est l'état des services publics. L'état de l'école, l'état de l'hôpital, l'état des routes, d'énormément de choses qui sont utiles aux Français quotidiennement. Et quand on entend à la télévision parler de milliards d'euros que l'on veut enlever, vous comprenez que les Français peuvent y voir justement une dégradation encore plus importante des services publics auxquels ils tiennent.
Alors, le problème, c'est que en fait, face à cette situation, il y a que deux options. Il y a soit on se dit qu'on dépense un peu moins, et vous savez, 40 milliards par rapport à 1 600 milliards de dépenses publiques, en fait, on peut y arriver. C'est 1% par an qu'il faut qu'on réduise chaque année pendant 5 ans. Donc, je pense que, vous voyez, c'est un ménage, c'est bon, au lieu de dépenser 100, vous allez dépenser 99, puis l'année après 98, puis l'année après 97. Non, je veux dire, c'est pas indolore, ça demande des choix, je vais y revenir, mais c'est faisable.
Et c'est quoi la deuxième méthode?
La deuxième option, c'est qu'on augmente les impôts.
Et ça, c'est une
et
bonne
ça,
idée,
ça. Et ça, c'est pas faisable.
Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on a quand même le record du monde des impôts. On est le pays qui taxe le plus au monde. Alors, moi, je veux bien que certains disent qu'on va augmenter les impôts.
Des prélèvements obligatoires, peut-être plus que les impôts.
Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le PIB, c'est tout ce qu'on produit. 51%, donc plus de la moitié de ce qu'on produit, est reversé en impôts et en taxes. Donc, si on se dit, la solution à ce déséquilibre entre, en gros, les impôts qu'on prélève et les dépenses, c'est d'augmenter les impôts. Moi, je vais avoir du mal. Et vous voyez, moi, je n'ai pas encore 40 ans. Ça m'arrive dans 15 jours.
Ça arrive à des gens bien.
Et donc, je me sens encore jeune dans ma tête. Et j'espère encore jeune pour longtemps dans ma tête. Je vois mal comment, vous voyez, notre génération, on dit que la solution à nos problèmes, c'est qu'on prélève encore plus sur ceux qui bossent, qu'on prélève encore plus sur les petites entreprises, qu'on prélève encore plus sur les revenus immobiliers, alors que les prix de l'immobilier sont déjà hyper élevés. Donc, je pense qu'on peut faire des choix ensemble pour qu'on se redonne des marges de manœuvre. Moi, mon objectif dans ce budget, je vous le dis, c'est qu'on réduise le fonctionnement et qu'on retrouve des marges de manœuvre pour investir. Pour investir dans l'éducation, dans la recherche, dans les universités, dans l'écologie, dans l'avenir. Moi, je ne suis pas là, vous voyez, d'accord, pour me dire, on va faire mes boutiques et puis...
On va en parler, on va prendre le temps d'en parler, Namou.
Justement, vous parlez du fait que vous ne voulez pas augmenter les impôts, mais vous parlez aussi en même temps de vouloir supprimer les niches fiscales, ce qui augmenterait les impôts. Moi, je me demande aussi pourquoi justement vous refusez en fait de toucher aux impôts des plus riches.
Alors, on va toucher aux plus riches quand ils suroptimisent. Alors, je vais vous faire une anecdote.
Optimiser, ça va, mais il ne faut pas suroptimiser.
Non, mais j'ai découvert, par exemple, il y a des gens qui auront 20 millions, 30 millions de patrimoine et qui s'organisent pour que leur revenu fiscal de référence, c'est ce qu'il y a sur notre feuille de paye à tous, soit tellement bas qu'ils sont éligibles au RSA ou au logement social. Ça, aujourd'hui, c'est légal.
C'est ce qu'on appelle de l'optimisation.
Il y a des façons illégales de faire, mais il y a aussi des façons légales. Et ça, c'est un engagement du Premier ministre, qu'il a pris d'ailleurs vis-à-vis du Parti Socialiste. Il a dit, en 2025, on va réfléchir très, très précisément. Il faut être très précis, parce que si vous n'êtes pas précis, ça va continuer. Manière dont on évite ça.
C'est intéressant, cette différence entre l'optimisation et la fraude. À quel moment est-ce qu'on décide aussi de créer des fraudes? C'est aussi à la loi de décider, de dire qu'il est absolument illégal d'organiser son patrimoine de manière à échapper à l'impôt.
Donc, la lutte contre la fraude, c'est aussi ma priorité. L'année dernière, grâce à la lutte contre la fraude que maintenant on fait, et c'est plus anecdotique, un truc qu'on dit de temps en temps pour se faire plaisir parce qu'on s'ennuie quand on est ministre du budget, c'est 13 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le budget du ministère de la Justice, qu'on a récupéré en fraude fiscale, en évasion fiscale, en fraude sociale, toutes les fraudes. Et donc la question que vous me posez sur les impôts et l'optimisation, derrière il y a aussi l'idée, les niches fiscales, qu'est-ce que je veux faire? Je veux baisser les impôts pour tout le monde. C'est pas normal que dans notre pays, vous ayez... Il y a des impôts qui ont l'air très élevés.
Pour tout le monde.
Qui ont des gros trous. Donc, il y a certains qui bénéficient des gros trous, mais il y a aussi des honnêtes gens juste qui ne sont pas hyper informés, qui n'ont pas le conseiller fiscal, et qui, eux, payent des impôts très élevés. Je vous donne un exemple. Sur l'impôt sur le revenu, entre le taux d'impôt qui est affiché et ce qui, moi, en tant que ministre des Comptes publics, rentre, il y a une différence d'un quart. Ça veut dire qu'en fait, théoriquement, si on supprimait toutes les niches, on pourrait baisser les taux d'imposition pour tout le monde d'un quart. Donc ça, c'est massif. Il y a des bonnes niches fiscales. La niche fiscale qui permet de faire garder ses enfants avec moins de frais, je pense que c'est une bonne niche fiscale. Mais il y a aussi des niches fiscales, il faut se demander, est-ce que c'est ça là-dedans qu'on veut mettre notre argent à tous? Ou est-ce qu'on veut faire des choix? Et vous avez des pays qui ont très peu de niches fiscales, il n'y a pas de trou dans leur mécanisme, mais il y a un impôt plus bas pour tout le monde. Ça, je pense que c'est une mesure de justice. Et je pense que pour notre génération, moi, ce que je veux porter, c'est l'idée qu'un budget, c'est un choix. Ce n'est pas un tableau de chiffres, ce n'est pas des milliards, c'est un choix.
C'est de la politique.
C'est de la politique.
Absolument.
Et chaque ligne, en démocratie, je pense qu'il faut discuter. Il y a des choses qu'on peut décider de garder, et très bien si on a discuté et qu'on veut le garder, mais il y a des choses aussi qu'on a le droit de remettre en question.
Emilio, vas-y.
Ouais. Vous évoquiez la suroptimisation. J'ai regardé, on récupérait grosso modo 2 milliards d'euros. C'est à peu près ce que vous aviez dit. On en cherche 40 aujourd'hui. Donc il y a une autre solution qui est posée sur la table. Elle sera d'ailleurs examinée par le Sénat le 12 juin prochain, qui est la taxe Zucman. J'explique le principe. C'est en gros un impôt plancher à 2% pour les plus hauts patrimoines qui sont supérieurs à 100 millions d'euros. Ça concerne 1800 foyers en France. Ça permettrait de récupérer entre 15 et 20 milliards d'euros par an, selon l'estimation de l'économiste Gabriel Zucman, qui a donné le nom à cette taxe. Donc elle est examinée par le Sénat, c'est dans la niche écologiste. Pourquoi vous n'en voulez pas de cette niche?
Alors,
de cet impôt.
Vous savez, c'est un peu paradoxal. Moi, j'ai défendu, et Gabriel Zucman on le sait, j'ai défendu à fond pendant 2 ans, parce qu'il se trouve que pendant 2 ans, j'ai été, je représentais la France à l'OCDE, et donc c'est là qu'on fait les grands deals fiscaux mondiaux. J'ai défendu à fond la taxe Zuckerman au niveau mondial. C'est un très très bon impôt au niveau mondial. C'est-à-dire que si dans le monde entier, les grands pays, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne le font, nous, la France, on est à fond. Et d'ailleurs, on est en train de faire en sorte que les autres se mettent d'accord avec nous. Si on est tout seul à le faire, vous avez parlé de 1800 personnes. Bah, 1800 personnes, je ne vous fais pas un dessin. Ils prennent le TGV, ils se mettent à Bruxelles. Ils prennent le TGV, ils se mettent en Suisse. Ils prennent le TGV, ils se mettent à Milan.
Mais pardon, et donc, mais c'est pas vrai. Toutes les études le montrent, et j'en ai une sur mon téléphone que je peux vous montrer, à l'annexe 9 d'un rapport de France Stratégie, on parle de quelques centaines de personnes.
On parle de ça pour un impôt qui s'appelait l'ISF.
Pour l'ISF,
qui était
tout à fait, mais
5 fois moins.
Mais sur quoi vous vous appuyez pour le dire, pardon? Parce qu'en fait, on entend ça tout le temps, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron d'ailleurs à la télévision sur TF1. Il a dit il faut le faire de façon mondiale, sinon les gens ils sont. Mais sur quoi vous vous appuyez? Sur quelles données pour affirmer que les gens partent?
Alors. Ça, c'est intéressant, ça s'appelle l'économie, c'est comme ça que c'était mon premier métier. Mon premier métier qui consistait à faire des modèles. Bon, le modèle sur l'ISF, c'était 5 fois moins d'argent sur 100 fois plus de gens. Donc 100 fois plus de gens, ça concernait 200 000 personnes.
350 000 en 2017.
Et même 350 000 à la fin, mais au départ quand on a été créé, c'était à peu près 200 000 personnes. Et on a vu que sur 200 000 personnes, vu les taux qui n'ont rien à voir avec la taxe Zuckerman, effectivement, il y a des gens qui ont bougé. Mais pas 100% des gens.
Oh bah ça va alors.
Si vous faites maintenant 5 fois plus que l'ISF, 5 fois plus en rendement, c'est 25 milliards là où l'ISF c'était moins de 5, sur 100 fois moins de gens, donc il n'y a plus que 1800 familles concernées. 1800 familles, si vous leur dites vous êtes le seul endroit au monde où vous allez payer cet impôt, je ne vous fais pas un dessin, ces gens, et d'ailleurs ils nous l'ont tous dit.
Oui. Donc, c'est au chantage.
Si on fait du chantage,
non,
en fait,
du chantage.
Mais si, c'est du chantage.
Si. Mais parce que si je mets un impôt sur ces personnes,
ouais.
Ces personnes ont des entreprises en France, elles ont des employés en France,
ouais.
Et qu'elles nous disent, c'est quoi? Je me casse.
Ouais, donc elles font du chantage, ouais.
Elles s'en vont.
Elles font du chantage.
On n'a plus, ni l'argent, ni les emplois. Donc si elles partent, elles ne payent pas l'impôt, donc je n'ai pas l'impôt.
Non, mais donc on
n'a
pas le
choix. Et je n'ai plus les entreprises.
Donc vous nous dites, oui, vous adossez au chantage, en fait, c'est ce que vous nous expliquez.
Non, ce que je vous dis, c'est que la manière de résoudre le problème, c'est d'être à fond en Europe, à fond au niveau mondial, et je peux vous dire que tout le monde sait que la France se défend à fond, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, avec l'Espagne, avec l'Allemagne. On n'est pas tout seul, hein, à penser que c'est un bon mécanisme si on le met tous ensemble en même temps.
Donc au niveau de l'OCDE, notamment, c'était ça qui était.
Des pays de l'OCDE, les pays de l'OCDE, c'est les 40 pays les plus développés. Et donc, on veut le faire au niveau mondial. Ce que je vous dis juste, c'est si on est tout seul à avoir raison, on aura raison tout seul contre tout le monde. Et à la fin, on n'aura ni les entreprises, ni l'argent.
On parle d'une taxe donc à hauteur de 2% du patrimoine. Aujourd'hui, le taux de rendement moyen du patrimoine pour les personnes avec ce niveau de revenu, il est environ de 7%. C'est-à-dire que c'est les gens qui, même avec cette taxe Zuckerman, ils vont continuer à s'enrichir. Donc en fait, pourquoi ils partiraient alors qu'ils continueront à gagner de l'argent?
Parce que s'ils vont ailleurs, ils gagnent plus. Donc moi, c'est pour ça qu'on veut faire cette lutte contre la suroptimisation. Et vous verrez la proposition qu'on est en train de travailler. C'est une proposition qui est de dire, quand vous êtes en France, vous n'avez pas le droit de contourner l'impôt. Et je pense que tous les gens qui nous regardent comprennent très bien que les honnêtes gens, nous tous, on fait notre déclaration, on paye l'impôt. Et donc, c'est contre ça que moi, je veux travailler.
Mais la proposition de loi dit que si ces gens s'en vont, ils continueront à payer pendant 5 ans.
Pendant 5 ans. Mais ça veut dire que la sixième année, il y a zéro pour l'État et il n'y a plus d'entreprise. Et je pense que notre responsabilité, c'est aussi de faire des trucs qui marchent plus que 5 ans. Parce que si dans 5 ans, il n'y a plus les entreprises et plus les familles...
Non, je me dis ça va être dur tout ça, parce que les riches, ils ont quand même de moins en moins envie de jouer le jeu. On parlait de chantage tout à l'heure. Je me souviens de Bernard Arnault, au retour de l'investiture de Donald Trump, nous parler d'un véritable vent de liberté là qui soufflait depuis les États-Unis, et puis ensuite d'avancer de nouvelles revendications. Finalement, l'Europe, dans la vision des milliardaires, et puis dans la vision des Trumpistes aux États-Unis, l'Europe, ça n'est jamais que des normes, des taxes, un modèle social qu'ils ont plus envie de financer. C'est du tout. On va arriver à un moment où ça va être les riches contre la société. C'est-à-dire soit ils prennent le pouvoir comme ça se passait aux États-Unis, soit ils continuent à vous menacer et finalement vous n'osez rien faire. Mais sinon ils vont partir, etc. Est-ce qu'on est coincé ou est-ce qu'on peut reprendre la main? Est-ce que vous avez cette impression aussi qu'ils se radicalisent? Et quand je dis ils, c'est on a vu aussi il y a pas longtemps une pétition des industries pharmaceutiques, pareil, qui réclament aussi de nouveaux avantages en menaçant, en disant sinon on s'en va. Ils sont en train de s'organiser et surtout ils sont en train de se radicaliser dans leur demande. Ça vous fait peur?
C'est un très bon sujet qui, effectivement, on doit éviter. Parce que le jour où les entreprises s'en vont, je peux vous dire, il n'y a plus de budget, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'économie. Qu'elles soient françaises ou étrangères.
Non, ce n'est pas les entreprises, on parle des grandes fortunes. Voilà. Mais il y a des entreprises qui ne sont pas à des grandes fortunes.
Il y a très peu de gens qui ont une grande fortune, quand même, qui n'ont pas une entreprise derrière. C'est quand même souvent comme ça que ça marche. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que, d'une certaine manière, Trump Il a tellement promis des choses qui étaient fictives. Les gens se sont tellement dit que ça allait être formidable, puis quand ils voient la réalité, bon bah les marchés baissent, les prix augmentent, il y avait de la croissance, maintenant il y a de la récession aux États-Unis. Donc c'est pas un super deal quand même pour les gens.
Je sais pas, Bernard Arnault ou Rodolphe Saadé, ouais, par exemple, mais, qui est allé aux États-Unis aussi.
Ouais, je suis pas sûr que ça leur ait beaucoup profité pour l'instant. Ce que je sais, c'est que lundi.
Ou Sanofi aussi qui ouvre aussi.
On reçoit toutes les entreprises étrangères qui veulent s'installer en France. Ça s'appelle Choose France.
Choose France.
C'est la sixième fois qu'on le fait. Quand même la sixième année que, tout en ayant les plus hauts impôts du monde, tout en ayant un modèle social qui est comme assez différent des autres, et tout en ayant du coup, bien sûr, des coûts plus élevés, on est le premier pays où ils continuent de venir.
Peut-être parce qu'il y a une valeur aussi, je sais pas, la qualité de la formation des travailleurs, donc, la qualité des infrastructures, autant qu'il y en a encore un petit peu, des services publics qui font que le pays est plutôt vivable et que, en fait, on peut y faire de l'économie, on peut y faire de l'activité. Ça fait qu'ils partiront pas tous. Ils restent.
C'est pour ça que je vous dis que, à la fin.
Donc on peut les taxer.
Peut-être que si on en est là où on en est, on arrive à faire des choses.
Mais vous nous dites à la fois ils nous choisissent, puis à la fois vous nous dites oui, mais bon.
C'est pour ça qu'il faut faire les choses avec beaucoup de précision et se dire qu'on se lance pas dans des croisades trop dogmatiques. Parce que l'économie, vous voyez bien ce qui se passe. Trump, avec son dogme, il leur a dit je vais mettre des droits de douane, vous allez voir, ça va être super d'être aux États-Unis. En fait, on peut pas dire que ça marche beaucoup.
Mais est-ce que vous êtes dogmatique aussi lorsque vous dites que vous ne voulez pas justement toucher à ces fortunes-là?
Mais moi, j'ai vraiment aucun. Et je me lève pas la nuit en me disant ce que je vais faire, c'est que je vais aider les riches ou je vais. C'est pas ça mon sujet.
Si je ne serai pas la ministre sous laquelle on augmentera les impôts. Oui. Parce que vous l'avez dit. Hein.
Virgule pour les classes populaires et classes moyennes.
Mais personne ne le propose, ça tombe bien.
Ah bah si. Vous allez avec moi à l'Assemblée, vous avez plein de gens qui me disent mais c'est facile, on augmente la CSG.
Alors,
18 milliards,
demander...
ça remplit les caisses.
D'ailleurs, j'ai
des gens
demander...
qui me disent on peut augmenter l'impôt. Les impôts, il y a plein de gens qui veulent les augmenter.
Est-ce que vous êtes favorable à l'augmentation de la TVA, la fameuse TVA sociale qui a valu à Nicolas Sarkozy de perdre le pouvoir?
Je suis contre toute augmentation de TVA si c'est juste pour augmenter le rendement pour l'État. Ça peut être intéressant, je n'ai pas dit qu'on va le faire. Ça peut être intéressant s'il y a une baisse des impôts sur le travail.
Après, il y a un truc...
Parce que ça, ce n'est pas inintéressant de dire ceux qui bossent, ils ont moins de charges, ils ont plus d'argent sur leur...
De cotisations, parce que vous appelez des impôts, ça s'appelle des cotisations sociales et non pas des charges, je me permets. Hein.
Oui. Attendez, vous parlez d'un transfert de cotisations vers la TVA?
C'est une idée des économistes. Pourquoi? Parce que ça fait payer les entreprises étrangères.
Ça fait payer les consommateurs, surtout.
Oui, mais les consommateurs, s'ils gagnent plus d'argent sur la feuille de paye et que la différence...
Faut voir lesquels.
C'est bien. Nous,
non, j'en sais rien, je sais pas.
Mais il y a une idée aujourd'hui. Ouais. Si on regarde les gens qui ont notre âge, on paye beaucoup de charges, beaucoup de cotisations pour financer les retraites, pour financer la santé, et la santé c'est aussi beaucoup lié à celle du vieillissement, pour financer la politique familiale, ça bénéficie aux familles, pour financer l'autonomie des personnes âgées. On a un modèle solidaire et social. Et le chômage. Jusque-là, on est content d'avoir de la solidarité, et moi je suis très contente de le défendre. Mais je sais une chose, c'est qu'on est de moins en moins nombreux à être travailleurs et actifs, et on est de plus en plus nombreux dans notre pays à avoir des besoins, notamment liés au vieillissement, de dépenses qui sont, au fond, une charge pour notre génération qui bosse.
Donc il y a deux questions.
Soit on se dit, c'est nous, les travailleurs, qui allons continuer à porter de plus en plus de dépenses. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aura de moins en moins de salaires. Soit on se dit, en fait, il faut quand même que les gens qui bossent, ils s'y retrouvent. Et je pense que notre génération, sinon on est un peu coincé entre nos enfants, nos parents et les impôts. Et donc, si on veut avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, il faut qu'on répartisse l'effort. Il y a des gens qui vous disent c'est par la TVA. La TVA, je rappelle qu'elle porte aussi sur les produits importés.
Ouais.
Il y a des gens qui vous disent c'est peut-être sur les gros héritages. Moi, je suis assez pour qu'on regarde les gros héritages.
Alors justement, on a une question là-dessus.
Il y a des gens qui vous disent c'est plutôt sur l'immobilier.
Attendez. Voilà.
Parce qu'il y avait, on a regardé, j'imagine, vous aussi, mardi soir. Oui, c'était mardi soir, Macron, là. Il y avait la directrice d'Oxfam, Cécile Duflot, qui est venue rappeler, à la suite aussi, Salomé Sacquet a cité cet article du Monde sorti il y a 2 semaines, qui dit, là, il y a une manne extraordinaire, là, avec tous ces boomers qui vont nous quitter. C'est très triste, mais des patrimoines considérables se sont accumulés. Des gens vont le recevoir, donc un patrimoine qui ne sera pas lié à leur travail, à leur mérite, mais à leur filiation. Hein, donc on est redevenu une société de classe, de reproduction. Ça commence à peser de plus en plus fort, notamment sur les destins individuels. Et j'imagine que la libérale que vous êtes s'en offusque, j'imagine. Mais est-ce que...
Je m'en offusque beaucoup.
Voilà.
Et donc, parce que c'est, à mon avis, très injuste.
Évidemment.
Parce qu'en fait, à la fin, qu'est-ce qu'il faut?
Alors qu'est-ce qu'on fait?
La famille, vous êtes née ou l'énergie, le travail?
Est-ce que ce serait pas mal de faire payer les morts parce que ils vont pas se plaindre?
Alors, je vais vous donner un avis personnel. Mmh. Moi, je suis à fond pour qu'on réouvre le débat de comment est structuré l'héritage. Il y a 2 choses, moi, qui me choquent. L'héritage, aujourd'hui, il est pensé dans une société qui n'est plus la nôtre. Il est pensé avec des familles où il n'y a pas de famille recomposée, où il n'y a pas de personnes, parfois, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas d'héritiers directs. Et donc, on a une fiscalité de l'héritage quand c'est papa, maman, les enfants. Ça, c'est en fait très peu taxé.
Oui, oui. Faut le
quand
rappeler.
C'est un couple, je sais pas, un couple d'hommes qui veut donner un neveu à une personne, c'est taxé à 60%. Quand c'est une famille recomposée, c'est taxé à 60%.
Au-delà d'un certain seuil.
Non, en ligne indirecte, c'est 60%. La partie qui est sans imposition, elle est toute petite. Toute petite. Quelques milliers d'euros.
Donc il faut mettre 60% aussi pour la ligne directe, c'est ça?
Non. Je pense que ce qui... Non, parce que... Non. Je vais pas dire aux gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont leur petite maison... Non, mais qui ont une petite maison, qui veulent léguer à leurs enfants...
Oui, mais en fait, c'est pas le plus gros des volumes de ces héritages.
Mais la deuxième chose qui me choque, c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, comment dans notre génération, on se dit qu'on a, au fond, un peu d'égalité des chances? Qu'on a un peu le droit de monter dans l'échelle sociale, quelle que soit la famille où on est né? Donc moi, je pense que c'est un très bon débat pour 2027.
Surtout que les inégalités...
Parce que là, on n'a pas de majorité, et il y a des avis, mais je pense que, et je serai, et je vous le dis, si je peux contribuer au débat de la présidentielle sur ce sujet, je pense que c'est un sujet à la fois d'équité, c'est un sujet de société.
Démocratique aussi.
C'est un sujet démocratique, et moi, je ne veux pas vivre dans une société de rentiers.
Mais je veux pas. Mais on est en plein dedans.
Donc c'est bien
de le démanteler, donc, cette société de rentiers.
La dernière présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon, portait une mesure qui était de dire qu'au-delà de 10 millions d'euros d'héritage, on prenait tout et on faisait un héritage universel. Vous en pensez quoi?
C'est Thomas Piketty qui l'avait
proposé. De Piketty aussi.
C'est pour ça. On peut définir les seuils, les taux. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas juste. Vous avez des
régimes. Vous ne répondez pas.
Mais je vais pas. Est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que c'est 15 millions? Est-ce que c'est universel? Est-ce que 50%? Est-ce que c'est 60%?
Universel, ça veut dire qu'on reverse à chaque enfant à ses 18 ans. Mmh. En gros, toute la manne qu'on a récupérée de ce qu'on a.
C'est pas forcément un mauvais système. Ce que je pense, c'est qu'il faut garder une somme qu'on peut transmettre à ses enfants jusqu'à un montant qui est raisonnable, qui correspond à ce que la classe moyenne, je pense, a envie de transmettre à ses enfants.
Aujourd'hui, c'est 200 000 euros, c'est ça, à peu près.
150 000 euros par enfant.
Et on les reçoit vers 60 ans, c'est pas tellement les enfants pour démarrer dans la vie.
Plus 150 000 euros dans l'assurance vie. Et effectivement, l'autre chose que vous dites très juste...
C'est pas pour démarrer dans la vie,
quoi. C'est qu'aujourd'hui, la transmission aux petits-enfants, en fait, elle est aussi très taxée. Donc ça, je trouve que c'est un super sujet. Et c'est un sujet qu'on doit pouvoir organiser, à mon avis, dans une présidentielle. Parce que aujourd'hui, on n'a pas la majorité absolue pour porter un tel projet, et je
avec
pense que notre pays doit pouvoir y réfléchir sereinement. Mais c'est un sujet sur lequel je vous dis, moi je trouve qu'on n'est pas au bon endroit.
Il y a un autre sujet que je trouve intéressant, c'est que vous avez déclaré que vous vouliez supprimer plusieurs agences et opérateurs de l'État. Vous avez même dit un tiers des agences et des opérateurs de l'État, avec un objectif de 2 à 3 milliards d'euros d'économies d'ici à 2027. J'ai l'impression d'entendre Donald Trump, vraiment. Et Elon Musk, pour être même plus précis.
Elon Musk, le Doge.
Eux, ils auraient dit 100%. C'est
avec le Doge, quoi.
Juste,
base zéro.
Moi, la tronçonneuse, la serpette, le sécateur, c'est pas ma culture. En fait, aujourd'hui, je sais pas si les gens voient bien ce qu'est un opérateur. Aujourd'hui, on a 430, au fond, filiales de l'État, qui sont devenues assez autonomes, assez indépendantes, qui vivent un peu leur vie.
Il y en a, c'est pour des bonnes raisons, quand même.
Il y en a, c'est pour des très bonnes raisons. L'université.
L'ARCOM, l'université.
Alors, il y a trois trucs. Il y a des trucs qui aident à faire la norme pour qu'on consulte, par exemple, les associations écologistes, qu'on fasse pas les lois tout seul dans notre bunker. Ouais. Ça, je pense, il y a des choses utiles. Il y a des choses, parfois, c'est un peu pour perdre du temps aussi. Donc, faut qu'on soit clair sur les choses dont on a besoin et les choses qui sont pas décoratives.
Faut déterminer ça, ouais.
Il y a deuxième chose, il y a les agences et les opérateurs qui gèrent de l'argent public. Mmh. Et là, honnêtement, on a une organisation qui est tellement compliquée à comprendre que plus personne ne sait très bien comment ça marche. Nous-mêmes, dans les ministères, parfois, c'est très compliqué de se dire entre ce qu'on veut faire et quand on le fait, comment on le fait, comment ça arrive aux gens, là où ils vivent, dans toutes les villes de France, dans tous les villages. On a créé beaucoup de complexité. Et puis après, il y a les autorités de régulation. L'ARCOM, la HATVP, ça, c'est des gens qui doivent être indépendants.
Ça, c'est bien, on garde ça, oui.
Et ça, on n'y touche pas, parce que ça, c'est...
Les autorités indépendantes, on les garde.
Bah, donc, ce que vous voulez attaquer, c'est les opérateurs...
J'attaque rien. J'essaye de me
supprimer.
Dire... Non plus. J'essaye de me dire qu'à la fin, il faut que ça marche pour les Français. Ça s'appelle l'efficacité. Et de se dire à la fin, est-ce que pour l'argent qu'on y met, est-ce que ça marche pour nous tous? C'est l'argent que je gère, moi, c'est pas l'argent public. C'est notre argent à nous.
C'est donc l'argent public?
Non, c'est notre argent. Oui. C'est votre argent, c'est l'argent des Français.
Donc l'argent public.
Oui, mais ce qu'on appelle l'argent quand public, on dit public, on a toujours l'impression que c'est l'argent des autres. On a l'impression que c'est comme s'il y avait un petit pot caché. À la fin, moi, il faut que je sois garante devant tous les Français que j'ai fait le meilleur usage des impôts qu'ils ont payés par la TVA, par l'impôt sur le revenu, par la CSG.
Je comprends ce que vous voulez dire sur notre argent.
Ce que je veux dire, c'est que les agences et les opérateurs, mon but, c'est pas de prendre la tronçonneuse et de couper arbitrairement. Mais je vais vous donner un exemple. on a des écoles de formation des fonctionnaires. Il y en a une par région. Chaque école...
Les INET ?
Les IRA, ça s'appelle.
Ah, les
instituts régionaux d'administration. Chaque école, elle a un conseil d'administration, une direction de la paye, un service RH. Chaque école. On dit, bah, peut-être que des 6 écoles qui existent, on peut peut-être faire un réseau.
Mais c'est le principe de la décentralisation aussi, de, justement, de laisser dans les territoires. C'est pareil pour les lycées, ce que vous dites. Il y a un CA par lycée.
Non, mais sauf qu'il n'y a pas... Non.
Là, c'est pas tout à fait le même genre de CA.
Ça n'a rien à voir. Oui. On va évidemment garder l'IRA qui est à Lyon. On va évidemment garder l'IRA qui est en Corse.
Sauf que l'IRA de Corse, il sera dirigé depuis Paris, c'est ça?
Non, il sera dirigé depuis Bastia, en l'occurrence, et donc la Corse. Mais est-ce qu'on a besoin à chaque fois d'avoir dans chaque structure
chaque
publique...
IRA.
Donc chaque IRA, voilà, exactement. Ça peut faire une chanson, mais bon, je vais peut-être pas me lancer. Je pense que c'est pas complètement
bon. Pas mal.
Chacun chante à sa manière. Et donc dans chaque IRA, est-ce qu'on a besoin d'avoir tout pareil, la même chose? Est-ce que, vous voyez, il y a des choses qui font...
Non, mais je comprends, ouais, ok.
Au fond, c'est un peu un maquis.
Oui,
on a un exemple pour l'écologie. On a une agence, par exemple, qui s'occupe du bio, vous en avez entendu parler, qui fait la promotion du bio.
L'agence du bio, oui.
On a une agence qui fait des paiements aux agriculteurs pour les soutenir dans la transition. On a des régions qui donnent de l'argent aux mêmes agriculteurs qui font du bio. On a dans les Outre-mer une agence qui a un autre nom et qui est encore sur un plus petit périmètre. À la fin, est-ce que les gens s'y retrouvent? Est-ce que c'est bien utilisé? Moi, je veux qu'à la fin, les politiques publiques marchent, les services publics marchent. Et aujourd'hui, on a créé beaucoup de structures. C'est devenu très compliqué. Et donc, ce que je veux, c'est que ça marche. Et pour que ça marche, parfois, il faut rapprocher les gens, parfois les organiser différemment. Et on n'est pas du tout dans la tronçonneuse, parce que la tronçonneuse, Yaciotti, qui a fait, je ne sais pas si vous avez vu une conférence de presse avec une tronçonneuse, a été moins grande que celle de Musk.
Donc ça elle était électrique aussi, c'était un peu ridicule.
Ça faisait un peu, voilà, vous l'avez dit.
On évite les concours de tronçonneuse, s'il vous plaît.
C'est pas ça le but.
Ouais.
Mais à la fin, si les Français paient des impôts, il faut que ça puisse marcher. Aujourd'hui, les maires, ils comprennent rien de comment ça marche. Et ils ont l'impression qu'on se fout un peu de leur gueule parce que, honnêtement...
Il y a beaucoup de services publics...
Usul.
Il y a beaucoup de services publics, si vous demandez à des fonctionnaires qui sont là depuis des années, qui vous diront que depuis les RGPP ou depuis le New Public Management et tout, ce qui les a aussi rendus moins efficaces, c'est ces désorganisations successives au nom de l'efficacité.
Bah, je suis 100% d'accord. Donc, c'est ce que j'ai dit ce matin, vous voyez, j'ai même prêté serment au Sénat. Je dis, on a créé tout ça, pourquoi? Parce qu'on
vous étiez en commission d'enquête.
Mais là, vous voulez réorganiser pour que ce soit plus efficace, être nouvelle désorganisation. On a des gens qui sont perdus sur le travail avec une mission et avec des conditions de travail qui changent et puis on...
C'est un peu l'inverse. C'est dire, en fait, on a créé des trucs hyper compliqués, soi-disant décentralisés. Chacun, on n'y comprend plus rien. Les gens, vous savez, à la fin, la démocratie, c'est quoi? C'est des Français qui votent pour des députés qui votent un budget et qui font confiance à un gouvernement, à des ministres. Les ministres, il faut qu'on puisse aussi être responsable. Aujourd'hui, vous avez des ministres, ils ont tellement d'agences différentes à gérer qu'en fait, on n'est pas sûr qu'ils aient vraiment, vous voyez, le pilotage qui conduise au fond leur ministère à fond. Donc,
c'est compliqué de mesurer l'efficacité d'un service social, c'est quand même assez compliqué.
Là, je vous parle plutôt, vous voyez, de ce qui nous aide à l'investissement. Ça distribue 64 milliards d'euros, via des tout petits tuyaux qui, honnêtement, parfois, on ne sait même plus très bien où ça va.
Mais ce matin, ce que j'ai dit... Ça permet aussi d'avoir de la technicité, le maillage qui permet aussi de connaître le terrain pour pouvoir, justement, flécher ces 64 milliards d'euros.
C'est ça qu'on veut faire. Sauf que le maillage, aujourd'hui, il est fictif. Qui a le maillage, aujourd'hui? C'est les préfets, dans les préfectures et les sous-préfectures. Les agences dont je vous parle, une immense majorité, ont recréé un réseau parallèle. Donc, ça devient illisible. Ça coûte très cher. Et donc, on veut, sujet par sujet, de manière un peu claire... Exactement éviter ce que disait Usul, éviter l'espèce de dispersion. Moi, je ne crois pas du tout à « parce que c'est autonome, ça va mieux marcher ». Je ne crois pas du tout que « parce que c'est contractuel, ils vont mieux faire le travail ». Je ne crois pas du tout à « parce que, voyez, on va mettre un conseil d'administration, ça va être mieux piloté que par le Parlement ». Moi, je pense qu'à la fin, on est une démocratie et il faut qu'on puisse rendre des comptes. Et on peut le faire de manière intelligente, on peut faire confiance aux préfets, on peut se rapprocher des Français.
Comment vous déterminez quelle agence vous supprimez et laquelle vous supprimez pas? C'est quoi la critère?
C'est pas comme ça qu'on fait. Si on se dit, je vous reprends les agences du sujet du bio. Sur le bio, qu'est-ce qu'attendent les agriculteurs? Qu'est-ce qu'eux, ils disent qui marche? Comment nous, on est sûr qu'entre un objectif et une politique, il y a une chaîne de commandement claire? Et si c'est trop dispersé, on se demande qui sont les acteurs qui sont les mieux implantés, les plus organisés, et puis on rapproche sinon ce qui marche pas. Et ça, c'est une vision, on regarde le bio, on regarde la recherche sur certains sujets, de se dire, il y a peut-être des gens qui font des choses très similaires, est-ce qu'on n'a pas intérêt à les rapprocher? On regarde sujet par sujet, pas je veux supprimer 10 000 emplois, pas je veux faire X milliards d'économies, pas je veux en supprimer. Le tiers dont je vous parle, chaque opérateur, chaque agence a fait l'objet d'une mission de recommandation de meilleure organisation depuis 10 ans. Mon bureau, il pourrait être rempli de rapports sur comment il faudrait faire les choses. Moi, je suis arrivé le 23 décembre, je pense que je dois aux Français un truc, c'est qu'à la fin, si on a écrit des rapports, on a fait travailler des gens, et des fonctionnaires qui se sont penchés sur comment on devait faire, bah, est-ce qu'on peut dire pour une fois, on applique la recommandation. La Cour des comptes, ils s'appellent Cour des comptes, ils sont peut-être pas très funky, vous avez dit que compte public, c'est pas très funky.
Non, mais j'ai bossé avec eux, la Cour des comptes.
La Cour des comptes, quand ils font des recommandations, ils le font au nom des Français.
Personne les écoute.
Bah, je me suis dit, vous voyez, avec le Premier ministre...
Surtout l'État, hein, si je peux me permettre, pardon.
Oui, mais les opérateurs et les agences, c'est quand même pas inintéressant de se dire, bah, il y a des gens...
Ah bah, celle-là, du coup, on écoute la Cour des comptes quand il s'agit de couper dans les agences. Je comprends.
Mais je pense qu'on doit pouvoir se dire que c'est aussi la démocratie et que quand les temps sont difficiles, bah, plutôt que de faire les choses de manière arbitraire, moi toute seule... Bah, je vais lire ce qu'ont fait les parlementaires, ce qu'a fait la Cour des comptes. Et au fond, ces rapports, ils ont été écrits pour que ça marche mieux et que peut-être qu'on peut les mettre en place.
Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, Amélie de Montchalin, c'est la nationalisation d'ArcelorMittal. 600 emplois sont menacés. La capacité de la France à tout simplement produire de l'acier est menacée également. Emmanuel Macron, mardi soir, s'est catégoriquement opposé à la nationalisation d'ArcelorMittal.
Temporaire.
C'est la question que j'allais vous poser. Même une nationalisation temporaire, c'est pas possible ?
En fait, le sujet d'Arcelor, c'est qu'ils ont un problème de prix de l'énergie. Donc ça, il faut qu'on continue à faire baisser le prix de l'énergie. Depuis 10 jours, si vous regardez le graphique, le prix de l'énergie en France, il est beaucoup, beaucoup plus bas, enfin, que le prix de l'énergie en Allemagne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre parc nucléaire marche bien. Mais ça veut aussi dire qu'on fait de l'énergie zéro carbone, moins cher qu'ailleurs en Europe. Et donc ça peut aider. Le problème de l'acier, c'est que les Chinois et en Asie, ils en font beaucoup, beaucoup trop. Donc ils ont cassé les prix. Et donc, le problème d'Arcelor, c'est qui peut acheter...
C'est qu'on a un problème de concurrence.
Ouais, c'est qui peut acheter l'acier d'Arcelor à ce prix-là. Nous, on les aide au niveau européen. On les aide au niveau français. Et donc, vous avez entendu le président, il n'a pas dit « j'arrête ». Il a dit « il faut absolument qu'on arrive à garder les aciéries de Dunkerque et de Fos-sur-Mer en route. Mettre de l'argent public, ça ne va pas résoudre les clients
ça
qu'on n'a pas.
Ça peut sauver les emplois.
Ça ne va pas résoudre le prix de l'énergie et ça ne va pas résoudre le dumping chinois.
Alors, le président de la République, pour le citer, il a dit « je ne veux pas bloquer les entreprises qui veulent ajuster les choses ». Alors, des choses, ça s'appelle 636 personnes qui sont menacées de licenciement aujourd'hui. Mais il se trouve que je les ai rencontrés, les salariés d'ArcelorMittal. Il se trouve que ce sont, à discuter avec eux, on se rend compte qu'ils connaissent extrêmement bien leur outil de production. Et en fait, ce sont les meilleurs spécialistes de l'entreprise. Eux, en tout cas la CGT, qui est majoritaire parmi les opérateurs ouvriers, demandent la nationalisation. Sophie Binet, Jean le rappelait, l'a demandé à Emmanuel Macron. Il se trouve que ce qui cloche aussi chez ArcelorMittal, c'est qu'on a donné beaucoup d'argent public, 300 millions d'euros par an, et en plus, il y avait une promesse d'une somme supplémentaire pour la décarbonation, de 800 millions d'euros sur un total de 1,8 milliard que s'engageait à investir donc ArcelorMittal pour décarboner la production d'acier. Il se trouve en fait, ils ne le feront jamais, ArcelorMittal, en France. Mittal se moque de vous. Il investit massivement en Inde et au Brésil, justement, avant de délocaliser. En fait, on est en train de revivre Florange. On est en train de revivre 2013. Pourquoi vous vous arc-boutez là-dessus? À quoi sert l'acier? À construire des bâtiments, à faire des voitures, à l'armement aussi. Donc là, on entend qu'on a un grand projet d'armement à l'échelle européenne, qu'on veut réindustrialiser la France sur tout un tas de sujets. Donc en fait, le débouché pour un marché... Normalement, vous êtes censé en créer les conditions. En tout cas, c'est la promesse que vous faites. Donc, ce que demandent, en plus de la nationalisation, les salariés, les syndicalistes de la CGT, c'est de mettre des barrières, des douanes aux frontières, justement, pour renchérir le coût de l'acier qui est déversé par, notamment, le marché chinois qui produit 50% de l'acier mondial. Bien, pourquoi vous ne le faites pas?
Alors, on le fait. Ça s'appelle la taxe carbone aux frontières. Ça se met en place dans 12 à 18 mois sur l'acier, pour dire l'acier qui est produit... dans des pays avec du charbon, donc avec beaucoup de CO2, quand il arrive en Europe, on lui remet du prix, parce que nous, on l'a fait avec des sources d'énergie qui sont bien meilleures pour la planète, mais qui coûtent plus cher. Mais qui coûtent plus cher. Et puis, il y a les enjeux sociaux, donc ça s'appelle la taxe carbone aux frontières. La France s'est battue. Bon, il se trouve que j'ai été ministre des Affaires européennes quand ça a été adopté. Ça a été un combat que la France a mené pendant 10 ans. 10 ans, on a dit, on ne peut pas se mettre à nous-mêmes des normes écologiques pour des bonnes raisons. Si on ouvre nos frontières à tout ce qui arrive du reste du monde sans que ces normes soient appliquées là-bas.
Et d'ici 12 à 18 mois, pourquoi on ne fait pas une nationalisation temporaire?
Il y a ça. Et l'autre chose, c'est ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Et donc, c'est en train d'être négocié à Bruxelles. Là aussi, la France pousse très fort pour dire, là, on a un besoin de sauvegarde. C'est-à-dire que comme l'acier chinois, alors il va plus aux États-Unis. Il y en a beaucoup, beaucoup en Chine qui attend à être vendu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les prix et donc ils nous inondent, nous l'Europe. Et donc on a dans ces, heureusement, quand ces situations arrivent, on a des clauses de sauvegarde. Donc ça, c'est l'autre chose qu'on essaye de mettre en place. Quand j'y essaye, parce qu'il faut qu'on le négocie au niveau européen. Et malheureusement, vous avez des pays en Europe, avec lesquels on se bat beaucoup, qui vous disent, moi je préfère acheter de l'acier vraiment pas cher chinois que de devoir acheter de l'acier européen. Donc on a aussi une conception qu'il faut qu'on partage avec les autres pays européens.
C'est qui? C'est quel pays?
C'est une négociation, je ne vais pas les dénoncer. C'est pas mon rôle, vous voyez, d'aller dire les petits copains, ils sont pas sympas. On négocie. Et on a bon espoir qu'on va y arriver. Et j'aimerais que vous pouvez vous dire, dans un mois, on a une clause de sauvegarde, on a des règles très claires sur le mécanisme carbone aux frontières qui va se mettre en place après 10 ans de combat. Et on veut, et on va continuer à se battre avec ArcelorMittal pour que, et à Foss et à Dunkerque, les emplois restent. Les 300 licenciements et les 300 départs à la retraite pas remplacés, c'est ça qui est proposé par Arcelor. On va essayer à tout prix de l'éviter. Vous savez, on n'a pas eu la main qui tremble pour nationaliser EDF. Donc on n'est pas dogmatique.
Non, c'est-à-dire que le député socialiste Philippe Brun vous a un peu forcé la main parce qu'il l'a fait voter à l'Assemblée nationale. Pardon, c'est quand même pas la main qui tremble, c'est le rapport de force à l'Assemblée nationale qui vous était défavorable.
Oui, enfin, j'étais pas au gouvernement à l'époque. Et vous savez, moi j'ai perdu une élection et donc j'ai beaucoup d'humilité sur les moments où on a la main, les moments où on l'a moins. Et donc
Là, en l'occurrence, c'était Philippe Brun quand même qui avait passé.
Philippe Brun,
ça.
Et je le remercie, on a beaucoup travaillé ensemble, mais grâce à lui, on a meilleur budget.
C'est pas pour vous opposer, c'est
que. La démocratie a parlé, l'État.
Vos députés avaient voté contre.
Mais voilà, à la fin, je peux vous dire aujourd'hui, EDF s'est nationalisé, et on n'a pas de problème, on n'a pas de pudeur de gazelle, comme on dit, avec le sujet, et on vit bien avec ça.
Namou ?
En tant que ministre des Comptes publics, vous gérez aussi tout ce qui est question de douane. Et donc, on a pu voir pendant les 100 premiers jours de mandat de Donald Trump, cette offensive, cette guerre commerciale qui commence qui nous impose. Et moi, je voulais savoir, en tant que ministre, comment vous agissez justement pour gérer la guerre commerciale. Comment vous allez en fait protéger les Français et les Françaises face à les assauts de Donald Trump?
Alors, il y a les assauts de Donald Trump, et moi je vais vous parler d'un sujet que je pense que vous connaissez tous, qui sont les colis Shein, Temu, et qui sont en fait en train de nous inonder. C'est un sujet de droits de douane, et c'est une conséquence de ce que fait Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump, il a dit « je veux plus rien de chinois en gros aux États-Unis ». Bon, la première fois il l'a annoncé, ça s'est mal passé, ça a rempli tous les aéroports, ils ont été submergés, donc au bout de 24 heures, ils ont dit « ah, on va quand même faire rentrer les paquets parce qu'ils savaient plus où les mettre ». Bon. Mais il a quand même annoncé, et il va mettre en place des droits de douane très très massifs sur tous les produits achetés par les petits colis chinois. On a été à Roissy avec Éric Lombard, le ministre de l'économie, la ministre des PME et les douaniers. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui se passe tous les jours. Tous les jours, il y a 600 avions cargo qui partent de Chine et qui livrent dans le monde entier des millions, voire des dizaines de millions de colis remplis de t-shirts, tout ce qu'on trouve sur les plateformes. Les produits qui arrivent à 80%, ils sont soit dangereux, soit remplis de produits qui sont nocifs, des allergies, des produits interdits, des médicaments frelatés, enfin je vous fais pas des produits cosmétiques qui sont très dangereux pour la peau. Soit ils sont sous-déclarés. Il y a écrit ça vaut voilà. Et donc on a ouvert un paquet, je vous donne un exemple. C'est arrivé le matin. Il y a un paquet qui pesait 7 kilos et qui avait été déclaré 33 centimes. 33 centimes. Donc on l'a ouvert, il y avait 60 trucs pour une dame en Normandie là. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le sujet de la guerre commerciale américaine. Et on négocie et on essaye de faire revenir les Américains à un point où ils ne se suicident pas économiquement eux-mêmes. Parce que là, c'est surtout eux qui payent aujourd'hui le coût de la pratique. Les petits colis chinois, on a, nous, la France, et j'étais encore aujourd'hui, vous voyez, avec la ministre polonaise en charge, on va faire une réunion de ministres européens, on veut mettre, sur tous les colis qui rentrent, un forfait pour que je puisse payer les douaniers à contrôler. Contrôler.
Donc on va payer une taxe à l'importation. Enfin, nous allons, quand on commande un colis à l'étranger, payer quelques centimes.
Je vais faire payer Shein et les plateformes.
Ah, c'est eux qui vont payer?
Qui vont payer.
Bah, ils vont nous répercuter le prix, hein, on les connaît.
D'accord, sauf que en fait, je vais leur faire payer les contrôles qu'ils ne font pas.
D'accord.
Ils ont une responsabilité, ils ne peuvent pas envoyer dans le reste du monde des produits dangereux, des produits toxiques, des produits qui prennent feu, des produits qui nous rendent malades. C'est hyper dangereux, ça contourne nos règles fiscales, par ailleurs. Et moi... Les gens me disent, vous n'avez qu'à mettre des douaniers. Je dis, d'accord, mais je ne vais pas faire payer les honnêtes gens pour les centaines de douaniers, les centaines de scanners, les centaines de machines qu'il faut que je mette dans les aéroports pour pas qu'ensuite on se retrouve tous. Bon, au milieu, il y a évidemment de la drogue.
Au final, c'est les honnêtes gens qui vont payer. Mais...
Ouais, moi, je pense que si on met quelques centimes, quelques dizaines de centimes par article, et donc ça fait quelques
Après,
euros
si ça
par colis.
Enchérit les produits Chine, c'est pas grave. Tu vois.
Et si je peux me permettre, quand je vois que Jennifer, Kiabi, tous les réseaux de distribution sont en train de fermer, que tous les emplois dans nos quartiers, dans nos villes sont menacés, qu'on est en train de mettre à plat toute la petite industrie qui faisait les produits de maison d'Europe et de France. Ça, moi, je pense que c'est ma manière à moi, en fait. Vous voyez, dans mon périmètre, je suis pas ministre du commerce extérieur comme Laurent, qui est un type super. Par ailleurs, je voulais vous le dire, il est très sympa, Laurent. Vous pouvez l'inviter.
Laurent Saint-Martin, évidemment.
On l'a déjà eu.
Il est très sympa.
J'ai pas trouvé.
Lui, il s'occupe des négociations avec les Américains. Moi, je m'occupe des petits colis chinois.
Bah justement, vous parlez de Chine. Il y a pas très longtemps, je crois que ça fait moins d'un mois, Christophe Castaner, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, a été nommé au sein du comité responsabilité sociale et environnementale de Chine. Est-ce que justement, c'est avec ce genre de personnalité que vous allez aussi traiter par rapport à...
Moi, je ne négocie pas.
C'est un interlocuteur,
collègue. Non, je ne négocie pas avec les plateformes. Moi, je fais appliquer des règles. Vous voyez, quand on est membre du gouvernement, quand on agit pour les Français, il y a des moments où on doit négocier avec les entreprises. Là, ce n'est pas une négociation. Là, c'est 80% de produits qui sont non conformes.
Mais donc, il n'a pas une influence quand même, Christophe Castaner. Il a un carnet d'adresse, il a des amitiés.
C'est son rôle, mais moi, c'est le mien. Donc,
chacun chez soi. Vous nous dites qu'aujourd'hui, parmi les produits qu'on importe, ils ne respectent pas la loi.
Donc, du coup, on les bloque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les bloque, on ne les envoie pas chez les gens, parce que c'est dangereux. Sauf qu'on est face à une marée. Il y a 800 millions d'articles en 2024 qui ont été envoyés. C'était 400 millions l'année d'avant. Donc, on essaye de faire le maximum, mais je n'ai pas, vous imaginez, 800 millions de personnes, et on n'a pas dans le pays, et heureusement, vous imaginez le nombre de fonctionnaires qu'il faudrait mettre pour ouvrir. Donc, dès qu'on saisit des choses, on les interdit, on les détruit. C'est aussi écologiquement un scandale, parce que ça veut dire qu'on a produit des choses sur la planète qui sont dangereuses, et après qu'on détruit. Alors, parfois, on le recycle, on fait des choses, mais... Sauf que là où les plateformes sont... et c'est là qu'il faut qu'on soit lucide. Quand elles savent qu'un produit a été chopé et qu'on détruit, elles renvoient le colis en changeant l'étiquette, en changeant le montant. Donc on est face à quelque chose sur lequel on doit se protéger.
Et moi, couvrir le capitalisme, comment ça fonctionne.
C'est pas du capitalisme, parce que le dumping à ce point-là, c'est quand même un autre modèle économique.
C'est le capitalisme d'aujourd'hui, depuis des puissances.
Et donc nous, il faut qu'on soit dans le capitalisme, dans la démocratie d'aujourd'hui, la protection d'aujourd'hui, dans les mesures d'aujourd'hui.
On va en parler de demain. On voulait aussi vous inviter, Amélie de Montchalin, sur ce plateau, parce que vous êtes une macroniste de la première heure. Vous avez été élue en 2017, vous avez été nommée ministre dès 2019. Le macronisme, où est-ce qu'on en est? C'est un peu la question que je voulais vous poser. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus proche de la fin que du début. Mais peut-être que je me trompe. Comment est-ce que vous voyez les choses?
Bon, c'était quoi l'idée du départ?
C'est vrai, ça. C'était quoi?
C'est le moment nostalgique.
À la base, vous vouliez faire quoi, à la base?
Il y avait deux choses.
Société civile, tout ça?
Non, mais j'ai fait un stage de 6 mois au Parlement. Moi, je me suis... Vous savez, François Fillon disait que j'étais une députée Internet. Parce que j'avais envoyé mon CV pour être candidate aux législatives.
Par Internet.
Par Internet, parce que c'était comme
ça. Et pour François Fillon, c'était dingue.
Peut-être que c'est moderne. Donc, on peut se dire que le macronisme, à l'époque, c'était un peu moderne. Non, mais l'idée, c'était quoi? C'était qu'il y ait des gens.
À l'époque.
C'est qu'il y ait des gens qui ne soient pas des professionnels à la politique, qui n'avaient pas 50 mandats derrière eux.
L'amateurisme était valorisé.
Mais il y avait l'idée aussi que l'amateurisme, c'était aussi la voix des Français et que, vous voyez, les 330 députés macronistes En Marche de l'époque. Moi, j'étais très fière d'être dans un groupe où il y avait des infirmières, des patrons de PME, des gens
surtout
de tous les âges.
Surtout des patrons de PME, des professions libérales.
Non, je peux vous dire, mes deux voisins, c'était une infirmière d'un côté et une jeune retraitée qui avait eu une vie...
C'est vrai, vous nous parlez du début, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très citoyenniste au début, c'est vrai que le macronisme était vendu comme un dépassement du clivage gauche-droite. Qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis que j'ai l'impression que ça finit quand même un peu en bourgeoisie de droite?
Je vous dis, l'idée qui est restée, c'est ce qu'on appelle le dépassement.
Vraiment, vous y croyez, le dépassement?
Moi, j'y crois. Alors, j'y crois.
C'est parce qu'il y a François Rebsamen au gouvernement,
Non, c'est de dire. Les gens nous ont dit, vous êtes un peu l'extrême centre, vous êtes le centre mou, vous n'avez aucune conviction.
Le centre dur, plutôt.
Aussi un peu mou, qui est au gré du vent, qui n'a pas de conviction. Moi, je pense que ça avait surtout une conviction, ou une vision, qui était de dire, l'idéologie, c'est bien. Ça fait 40 ans qu'on essaye, un coup à droite, un coup à gauche, ça fait ping-pong.
Mais l'idéologie, c'est toujours les autres, en fait.
Non, c'était dire, nous, la nôtre...
Il y a ça dans cette idée d'extrême centre.
Vous la votez.
C'est dire que s'il y a une bonne solution qui est proposée par quelqu'un, ce qui compte, c'est ce qu'elle fait. C'est pas qui le dit, c'est pas qui le propose.
Oui, mais sauf que ça, c'est vous qui jugez de ce qui est bon ou pas bon, ouais. Donc en fonction d'une idéologie. C'est comme nous, bah, dans un journal,
avec,
quand on
avec le patronat.
On analyse les faits au regard de. On se dit c'est une bonne ou une mauvaise idée parce qu'on a une éditoriale.
C'est
donc
vrai.
Les bons et les mauvais sujets, c'est
vrai. Mais on a le droit de se dire que sur un certain nombre de sujets, il n'y a pas. Vous voyez, le petit manuel, le petit livre rouge de la droite, il faut faire tout de A à Z comme ça. Et puis, il y a le petit manuel, le petit livre rouge de la gauche, il faut faire tout comme ça. Et qu'on a le droit, au fond, de piocher des personnalités, des idées. Pourquoi je crois au dépassement? Si vous regardez aujourd'hui le pays, si on suit cette logique d'affrontement par bloc, on va nulle part. Vous voyez, la tête de l'Assemblée, c'est très fragmenté. Et si on se dit chacun est chez soi, se regarde et voit l'autre comme une forme d'adversaire indépassable, je pense qu'on ne va nulle part.
Mais quand vous dites l'autre, ça comprend aussi l'extrême droite?
Moi, je ne veux pas travailler avec l'extrême droite. Je ne veux pas non plus travailler avec l'extrême gauche.
Pourtant, s'ils ont une bonne idée,
Retailleau,
s'ils ont une bonne idée qui va dans le bon sens, vous la prenez ou vous la prenez pas? Non, mais c'est une vraie question. On travaille avec tous ceux qui sont de bonne volonté.
Moi, je travaille au fond. C'est pas. Il y a des gens, il y a des idées. S'il y a une idée qui peut faire consensus, s'il y a une idée qui peut faire compromis, c'était un peu l'idée du budget.
Ouais.
C'est-à-dire, moi, je suis arrivé dans un bureau, il y avait un paquet, là, il y avait beaucoup de feuilles. Il m'a dit, ça, c'est le budget, il faut arriver à le faire adopter. Bah, si on s'était dit, par idéologie, on s'interdit de débattre, on s'interdit de discuter, tout est figé.
Non, mais alors là, si je puis me permettre, pardon, mais ça, c'est une différence de rapport de force. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez été obligé de discuter avec les socialistes parce que sans eux, vous ne pouviez pas le faire passer le
budget.
Mais
moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je me sens pas.
Si vous aviez eu une majorité absolue, vous ne seriez pas allé négocier avec les socialistes.
Non, surtout consommiste. Pardon, ce budget, il est quand même plus macroniste que socialiste.
Oui, je sais, bien sûr.
Il est même très largement. Ils ont obtenu des miettes, les socialistes.
Oui, mais il a bien fallu leur en donner quand même.
C'est quoi le dépassement?
Ouais,
c'est l'idée de se dire qu'il n'y a pas ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Il y a des gens qui peuvent se mettre dans un même gouvernement. Dans le gouvernement actuel, je ne vais pas vous dire qu'on est d'accord sur tout le monde et qu'on est unanimiste.
Bien sûr que s'il y a des gens qui ont tort, vous avez le droit de dire qu'il y a des gens qu'on estime, ils ont tort.
Il y a bien sûr des gens qui ont tort, mais si on en reste là. Si on se dit, voilà, moi je suis tout seul, je fais mes 10% aux élections présidentielles, mais j'ai bien raison tout seul. Et ça, ça va faire une majorité. Ça va conduire le pays. C'est une impasse.
Ouais.
Ça ne marche pas.
Vous avez dit, je veux pas travailler avec l'extrême droite. On en est où du barrage républicain, du front républicain? Je vous avais entendu pendant les législatives en 2022 sortir des choses assez affolantes sur le. À l'époque, c'était la NUPES en disant, oh ça c'est des anarchistes, ça c'est avec vraiment. On avait l'impression que ça c'était votre barrage. C'était peut-être plus contre la NUPES qu'autre chose. Où est-ce qu'on en est chez vous? Est-ce que vous pensez que parce que là c'était un peu une surprise en 2024 de voir ce Front républicain fonctionnait encore et moi j'étais surpris également parce que j'avais l'impression que notamment dans votre camp on était plus effrayé par la gauche que par l'extrême droite. Est-ce que vous seriez prête à voter pour un insoumis dans votre circo s'il est face au RN par exemple? Si vous avez perdu avant?
Normalement on dit pas pour qui on a voté. Mais en 2024, j'ai voté pour un candidat insoumis dans la circonscription où j'étais.
Ah oui, d'accord. Ça, effectivement, ça nous surprend.
Donc,
c'est plus des anarchistes fous furieux.
Ce que j'ai dit en 2022, et je le dirais.
C'était dans la panique du moment.
Non, ce que je le dirais, j'ai notamment rappelé que un certain nombre de ceux qui se lançaient dans la NUPES se soumettaient à des idées antisémites. Je l'avais dit à l'époque.
Et le candidat dans votre circonscription, c'était Jérôme Gage.
Ça avait fait beaucoup, beaucoup de polémiques.
Attends, c'était Jérôme Guedj?
Oui, j'étais face à Jérôme Guedj.
Ah oui, j'étais face à lui.
Et je trouvais que, vu ce qu'il avait toujours défendu, j'étais étonnée de voir avec qui il faisait alliance. Bon, je crois qu'un certain nombre de faits, d'ailleurs, ont montré que lui-même était, en fait, in fine, pas à l'aise avec la coalition dans laquelle il s'était engagé.
Mais
ce que je peux vous dire, c'est que ce qui compte à la fin, et le choix que j'ai fait en 2024 de voter pour le choix que j'avais, c'est de me dire, au fond, et il se reconnaîtra, et c'est quelqu'un que je connais avec qui on a beaucoup échangé, j'ai regardé qui étaient les personnes, quelles étaient leurs valeurs, les choses avec lesquelles je pouvais vivre, les choses avec lesquelles je ne pouvais pas vivre, et le choix que j'ai fait, c'est celui que
c'est
je
du cas par cas.
Non, mais c'est intéressant parce que du coup,
il est plus absolu ce barrage contre le RN.
Non, mais c'est pas une question d'absolu ou pas. C'est un choix de conscience. Les électeurs y regardent. Moi, c'était pas possible de voter pour la candidate, en l'occurrence RN. Et c'est pas parce que c'était ce moment-là ni ce jour-là, c'est que c'est pas possible pour
alors
moi.
Alors ça, c'est intéressant parce que c'était dans une circonscription, la Vaud, vous avez effectivement dû faire un choix, mais on va se dire les choses aussi. Le Rassemblement National est aux portes du pouvoir. Si demain il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On s'oppose à eux ou on collabore avec eux? Parce qu'il y aura des postes à prendre. Non, mais il y aura des postes. Ils auront besoin eux aussi d'avoir des appuis chez les macronistes.
Peut-être même qu'ils n'auront pas une majorité absolue.
Vous avez rappelé un peu mon parcours.
Oui.
Vous avez dit voilà, moi je suis une femme donc de 39 ans. Vous voyez, j'ai une fille en quatrième, j'ai deux garçons en sixième. Je suis économiste, j'ai travaillé effectivement dans le secteur financier, parce qu'en économiste, c'est plutôt là, c'est pas chez le boulanger qu'on travaille, c'est plutôt le secteur où j'étais. Je considère que c'est pas un emploi à vie, la politique. Et donc oui, on se bat. Moi, je veux me battre. Et je vous ai dit sur des sujets potentiellement où d'ailleurs ma famille politique aujourd'hui se cherche une théorie, une idée. Moi, je veux me battre pour des idées auxquelles je crois. Et je crois qu'il faut que le travail continue mieux payé dans le pays. Je crois que l'héritage, c'est un sujet. Je pense que... Mais je ne vais pas tergiverser avec mes valeurs.
Okay.
Je ne vais pas dire...
Mais alors, du coup,
par exemple, quand j'entends dire, je vous donne un exemple. Le ministre du budget, il y a des gens qui disent « Ah, on a plein d'idées d'économie pour vous. Vous savez, sur l'immigration, on peut faire 6 milliards, 10 milliards, 15 milliards d'économies. »
Mais dans votre gouvernement, celui qui dit ça?
Non.
Bruno Retailleau,
vous êtes à l'aise avec Bruno Retailleau? Vous tergiversez, vous ne tergiversez, c'est dur.
Moi,
à dire, hein.
Bruno Retailleau, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il fait. Bruno Retailleau, on a travaillé sur quoi depuis 3 mois? Le narcotrafic. Moi, je m'occupe des douanes, lui s'occupe des policiers, donc la lutte contre le narcotrafic avec ses outils, et Gérald Darmanin, du côté justice. Tous les trois, moi, je pense qu'on a réussi à travailler honnêtement de manière très efficace contre le narcotrafic, le blanchiment, les gangs qui... En fait, quand même, balle perdue. Vous savez qu'il y a plus de morts en 2024 en France par le narcotrafic que de morts par le terrorisme.
Donc vous séparez le candidat à la présidence du LR du ministre, c'est ça? C'est pas la même personne.
Lui-même a l'air de dire d'ailleurs qu'il y a des sujets sur lesquels Macron et les macronistes parlent et sur lesquels il n'est pas d'accord.
Mais il était dans l'opposition. Hein. Il l'a dit à la télé, il a dit...
Voilà, aujourd'hui, on a une forme de gouvernement qui est un gouvernement de coalition. Moi, je suis assez fier que dans un moment comme notre pays, il y ait des choses qu'on puisse faire pour débloquer la situation, parce que sinon, ça s'appelle la crise de régime. Mais je pense que, voilà, moi, je fais la différence entre ces positions politiques dans une visée peut-être présidentielle un jour qui peut être la sienne.
Oui, mais c'est des visées qui portent aussi en tant que ministre de l'Intérieur.
Bah, oui, à la fin, il y a un Premier ministre. À la fin, il y a un Premier ministre qui décide. Et si vous regardez les lois qu'on vote, les décisions qui sont prises, ou là, des discours, bah, on est en train de faire des choses qui, moi, me vont très bien. Ce qu'on fait, effectivement, sur le narcotrafic avec Gérald Darmanin, avec Bruno Retailleau, ça me va très bien. Et ce que je vous dis, c'est que non, quand vous dites qu'il y aura des postes, etc., moi, c'est pas ma conception. Moi, je fais partie, je vous dis, de ceux qui sont engagés au départ dans l'idée qu'on pouvait faire des choses pour son pays. Mais je ne vais pas faire des choses pour mon pays. Et je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à d'abord vouloir combattre les extrêmes. Mais ensuite, on ne va pas aller se compromettre. Ça serait une déchéance, en tout cas, à mon échelle. Moi, je veux d'abord les combattre.
Je veux d'abord
faire en sorte qu'ils ne gagnent pas.
Okay, okay.
Macron, ça s'accommode assez bien. Il avait dit, donc, il y avait ce fameux article de Raphaël Baquet, Ariane Chemin, Ivan Trippenbach, qui racontait comment Macron était à l'aise, lui, pour parler avec l'extrême droite. Il disait même que c'était son terrain préféré. Et il y a cette fameuse citation, le problème des urgences, c'est surtout qu'il y a beaucoup de Mamadou. Est-ce que l'extrême droite, c'est pas seulement Retailleau, elle s'est pas aussi progressivement installée jusque dans ces phrases du président, qui sont plus que des phrases malheureuses, qui traduisent sans doute une aisance avec ces idées-là, une familiarité en tout cas avec ces idées racistes. Non mais allons-y, quand vous avez lu ça, vous y croyez pas à cette phrase? Vous y croyez? Ou ça vous étonne pas de lui? Ou vous le connaissez, il est pas comme ça?
Je veux pas commenter les phrases rapportées dans les journaux, je suis assez
c'est pas
bien
n'importe qui, c'est
maintenant
le monde,
formé
c'est...
Ah, pour oui, savoir mais... que le off, Amélie les pros, les... voilà. Donc, ça, je pense que c'est pas quelque chose que je veux mettre, et je peux pas croire une seconde,
ouais.
Une seconde, que le président soit raciste d'une quelconque manière. Et ce serait très grave. Et c'est pas notre ligne, et c'est pas ce qu'on porte, et c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit.
Donc si c'est vrai, c'est très grave, mais ça doit pas l'être. Ça l'est sûrement pas.
Ce serait très grave, et je pense que ce n'est pas vrai.
D'accord.
Moi, j'ai une question sur l'avenir. Justement, moi, j'aimerais savoir, en fait, qui parmi les macronistes qui sont dans votre camp, les gens avec qui vous travaillez, qui vous allez soutenir en 2027? Qui, pour vous... représente en fait l'héritage de ce que c'est que le macronisme.
Il y a le Braun-Pivet.
En fait, moi, c'est intéressant. Moi, je ne sais pas si on cherche on a parlé héritage avant. Je pense que c'est plutôt qui a une vision qui peut, je le dis à nouveau, permettre au fond au pays d'avancer et donc de ne pas être face à un mur, face à des blocages, face à des...
Mais c'est une bonne question.
Mmh. Voilà.
On vous la pose.
Je ne suis pas sûre.
Madame de Montchalin, c'est le moment.
Je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas vous dire. On est deux ans avant.
Entre un Gabriel Attal et un Gérald Darmanin, entre un Gabriel Attal et un Édouard Philippe.
Mais c'est pas une sélection. Pour moi, c'est pas qu'une question de personne. C'est qu'est-ce qu'ils vont dire, avec qui ils vont le faire, qu'est-ce qu'ils vont proposer, comment les gens vont adhérer, comment. Enfin, on est deux ans.
Est-ce qu'il faudrait pas une primaire?
On est deux ans avant, mais ils commencent déjà tous un peu à poser les bases de ce qu'ils veulent proposer pour la France en 2027.
J'ai pas vu de programme pour l'instant. Mon rôle aujourd'hui, c'est pas d'aller faire campagne, mais moi, mon job aujourd'hui, c'est, je suis pas Picsou la nuit qui voit des euros et qui cherche des milliards, mais mon job, c'est quand même vraiment comment notre pays évite de nouveau la censure, évite de nouveau le blocage, évite le surendettement.
La gauche.
Évite, non, on travaille avec eux et... Non, c'est pas la gauche le problème.
Pas toute la gauche.
Pour moi, c'est plutôt notre incapacité à nous mettre d'accord sur des choses qui sont essentielles et sur lesquelles on peut être d'accord. Et on a été d'accord avec... Et honnêtement, voilà, sur plein de sujets, je suis absolument persuadée qu'on peut être d'accord. Mais la gauche restera dans l'opposition, le PS restera dans l'opposition, mais c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est obligé de bloquer. Donc, moi, mon job d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte aussi que... Ça, c'est peut-être un peu plus sérieux.
Quand
mais
je dis la gauche, je voulais dire l'alternance, quoi. Éviter l'alternance. Macron, c'est
aussi
quand même...
permettre un débat démocratique apaisé en 27. Pour que ça soit une présidentielle vraiment démocratique, il faut que les Français puissent débattre. Il faut que les idées puissent se confronter. C'est très difficile d'avoir ce débat si on a un énorme déficit, si on a une quasi-crise financière et si, au fond, on n'a pas un peu remis notre maison en ordre. Moi, je pense qu'une partie de la responsabilité qui est la mienne, c'est d'assurer qu'en 2027, quand les débats vont avoir lieu, bah, les promesses qui vont être faites par les uns et les autres, on puisse vraiment les faire. Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'on fasse des grandes promesses et que tout ça soit du vent et que le lendemain de l'élection, ils arrivent, tout, qui que ce soit, dans le bureau bah, que je laisserai à mon successeur, je ne sais pas quand, mais un jour, peut-être plutôt que 27, hein, on ne sait jamais, ça peut arriver. Et que ce jour-là, ils puissent se dire « Ah, bah, il n'y a plus de sous ». Si on fait ça, c'est très grave, ça veut dire qu'on aura, pour le coup, une énorme trahison des Français.
C'est ce que vous a fait Bruno Le Maire.
Il y a l'attaque Zucman, s'il n'y a plus de sous, on ne sait jamais. Hein.
Ouais, il faut pas qu'ils partent, parce que s'ils partent, vous aurez plus les gens, comme je vous l'ai dit.
Merci beaucoup, Amélie de Montchalin, d'être venue sur le plateau de Backseat.